Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. De plus en plus utilisée en médecine et en psychothérapie, l'hypnose semble efficace pour lutter contre la douleur, se libérer de certaines dépendances ou mauvaises habitudes, je pense au tabac, au grignotage, mais aussi donc elle peut agir sur l'anxiété, les troubles de la sexualité, les phobies. Pour nous en parler, le docteur Isabelle Niclès est de retour avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors Isabelle, je vous représente. Vous êtes médecin spécialisé en reconstruction médicale esthétique et en hypnose médicale. Vous êtes praticien des centres de lutte contre le cancer l'ICM Val d'Aurel, pour lequel vous êtes responsable d'un plan de formation pour les soignants de Val d'Aurel en hypnose médicale. Vous êtes aussi responsable pédagogique à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes pour le DU d'hypnose médicale, mais aussi du module optionnel de sensibilisation à l'hypnose en formation initiale pour les étudiants. Et ça, c'est voilà, la dernière et grande nouveauté. C'est la première fac en France à prendre cette initiative.
Tout à fait. C'est très novateur de la part de la ville de Montpellier et de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes.
D'accord. Alors Isabelle, si les mécanismes d'action de l'hypnose sont encore peu connus et que beaucoup de scientifiques évoquent l'effet placebo, certaines hypothèses peuvent expliquer les succès de l'hypnose, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. On peut tout à fait rapprocher l'hypnose du placebo, à savoir que l'hypnose va utiliser une certaine forme de placebo. C'est plutôt un placebo dans ce cas-là psychique, mais il y a il y a une antagonisme avec le nom, puisque le placebo c'est accrédité d'une certaine valeur thérapeutique un produit, hein, alors que là par contre on s'accrédite soi-même d'une certaine valeur thérapeutique. Alors est-ce qu'on peut encore utiliser le même mot? Et c'est surtout que par exemple des expériences ont été faites. Il faut savoir, quand on parle d'un effet placebo, on parle d'un effet de placebo avec des fabrications d'endorphines, hein, de morphine biologique, on va l'appeler comme ça, que le corps fabrique, on appelle endogène. Et il y a une expérience qui fait que quand le corps fabrique lui-même effectivement ses endorphines, il y a un produit qu'on appelle l'naloxone qui vient bloquer, en fait, un petit peu, libérer ce mécanisme. Et donc, on dit qu'il y a un effet placebo quand la naloxone, effectivement, vient libérer ce mécanisme et que l'antalgie disparaît. Il faut savoir qu'en état d'hypnose, quand vous faites cette même expérience, l'antalgie, l'hypnoanalgésie ne disparaît pas. Donc, il y a sûrement, effectivement, une participation placebo, mais il y a, effectivement, une autre dimension qu'on n'explique pas par le placebo. Ou en tout cas, il faudrait inventer un autre mot.
Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous voulez nous redonner la définition de l'hypnose et nous en réexpliquer les mécanismes, puisque je précise que vous aviez fait une première émission le 3 avril qui est écoutable en podcast sur notre réseau, sur notre site internet fmplus.org.
Oui, tout à fait. Alors on va dire que l'hypnose est un état de conscience et pas d'inconscience, un état de conscience particulier, moi j'aime bien le terme particulier, dans lequel le cerveau va modifier sa connectivité, c'est-à-dire le câblage qui va faire entre plusieurs zones de son cerveau pour avoir accès, dans ce cas-là, à des modules, à des capacités qu'on n'a pas accès quand on est en conscience ordinaire.
Mmh. Alors, l'hypnose est notamment reconnue pour ses effets antalgiques.
Oui, tout à fait. On peut dire que même si on va effectivement sur les publications scientifiques et même, on va dire, de vulgarisation, il y a énormément d'écrits sur l'hypnose et la douleur. Les Canadiens ont énormément travaillé là-dessus et c'est une des indications largement plébiscitée, même si elle n'est pas la seule. Donc, dans tous les centres de soins, publics, privés, il est rare maintenant, on peut parler comme ça, il est rare de ne pas trouver, effectivement, de pratiques, d'indications et d'aider les gens avec la pratique hypnotique. Voilà. Et d'ailleurs, même à l'ICM, l'hypnose rentre depuis 2 ans au bloc opératoire. Donc il y avait l'hypnose dans tous les services, il manquait le bloc opératoire et depuis 2 ans, sous l'impulsion d'une de mes collègues, effectivement l'hypnose est rentrée directement au bloc opératoire pour les petites opérations. Voilà,
je vais vous demander, est-ce qu'elle permet d'éviter complètement l'anesthésie ou pas?
Alors ça dépend, en fait, il faut le raisonner à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire que l'hypnose puisse enlever toute l'anesthésie, car ce ne serait pas pratique. Il y aurait trop de paramètres que nous ne contrôlerions pas, et nous avons besoin, dans une médecine sécurisée, de contrôler quand même les paramètres, en plus en anesthésie et en chirurgie. Donc en fait, l'hypnose se place là plutôt pour limiter les lourdes anesthésies et favoriser des anesthésies beaucoup plus légères, ou simplement de favoriser simplement des anesthésies légères qui maintenant seraient faites que sous anesthésie loco-régionale ou locale avec de l'hypnose. Voilà. C'est vraiment pour diminuer les lourdes anesthésies, les anesthésies avec privation de la conscience pour laisser des interventions sous sédation consciente, comme on dit.
Oui, d'accord. Et alors, est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications à l'hypnose?
Alors la première contre-indication à l'hypnose, c'est l'incapacité du thérapeute et du praticien qui fait l'hypnose. Je crois que c'est la plus importante. On a un adage quand on forme les gens, on dit on ne fait pas avec l'hypnose ce qu'on ne sait pas faire sans l'hypnose. L'hypnose n'est pas un outil qui nous donne des capacités et des compétences. Apprendre un métier, c'est quelque chose. Et utiliser une conscience hypnotique pour développer une pratique de soins, c'est autre chose. Donc le fait d'apprendre de l'hypnose ne rend pas les gens médecins, sages-femmes, psychologues, psychothérapeutes, puisque c'est quand même une formation qui a prouvé son sérieux, la psychothérapie. Mais il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui font un petit stage d'hypnose comme ça, de quelques jours, quelques semaines, et qui s'autoproclament thérapeutes et qui disent « avec l'hypnose, on va soigner ». Non, l'hypnose en soi ne soigne pas. C'est comme si on disait « je vais réparer la voiture ». Oui, mais encore faut-il faire le diagnostic de la panne et pouvoir faire aussi une stratégie de soins, une stratégie thérapeutique. Et ça s'apprend, c'est un métier. Et c'est pas le fait d'apprendre comment on aide quelqu'un à rentrer en hypnose qui donne le métier. Donc c'est vraiment la première des contre-indications. Et puis après, il y a une contre-indication que moi je mets relative. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, les troubles trop dissociatifs, ou les schizophrénies, les psychoses, qui ne sont pas des contre-indications formelles, puisque Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose dite ericksonienne, c'est-à-dire des thérapies ericksoniennes, utilise énormément en psychiatrie l'hypnose. J'ai même des collègues, moi, qui utilise en tant que psychiatre l'hypnose chez des psychotiques, mais dans ce cas-là on le fait dans une unité de soins, on le fait très protégé. Donc c'est vraiment des contre-indications plutôt relatives que absolues. La vraie contre-indication, c'est le fait que quelqu'un qui se forme à l'hypnose s'autoprogramme hypnothérapeute sans rien derrière. Voilà.
Oui. Alors là, on va peut-être justement aborder l'histoire de la déontologie et comment est-ce cadré, enfin comment y a-t-il un encadrement, comment?
Alors, il y a un encadrement. Alors c'est oui et non, c'est-à-dire qu'on essaye en ce moment de structurer un encadrement. Donc déjà les facultés, toutes les facultés sont quand même le garant du savoir médical, du savoir universitaire. Donc on sélectionne effectivement les professionnels de santé pour cette formation. Et puis il y a en France et en Europe la Confédération, la CFHTB, qui est la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, qui travaille aussi énormément pour faire reconnaître une certaine qualité, une certaine éthique dans les gens qu'elle forme. Voilà, donc c'est un organisme qui est quand même assez représentatif du sérieux de la profession.
Alors, comment choisir le bon thérapeute aussi?
C'est toute la question. Et c'est vrai qu'on nous le demande souvent sur le site de l'Institut. Je reçois beaucoup de demandes où effectivement on me dit, voilà, j'ai tel problème, je voudrais trouver quelqu'un, puisque les gens sont perdus. Maintenant, si vous êtes sur Internet, il y a tellement de tout et n'importe quoi que c'est difficile quand même de s'y retrouver. Donc, c'est vrai qu'ils repassent souvent par cette confiance dans le milieu médical. Alors, on est en train, sur Montpellier, essayé de se fédérer pour monter un annuaire du Languedoc-Roussillon. Alors beaucoup d'instituts, Milton Erickson en France, montent aussi leur annuaire, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu tout éparpillé. Je crois que c'est un des travaux du futur que j'espère proche, pour pouvoir effectivement donner un annuaire. Sinon, il y a énormément les médecins, hein, les médecins traitants, les médecins référents des gens qui maintenant ont beaucoup de relationnels dans le milieu professionnel, médical et hypnose. Et puis, il y a aussi le bouche à oreille. Hein, je crois qu'aussi, les gens peuvent témoigner. Voilà, je suis allée voir telle personne et il y a cette relation, cette personne est éthique. Et, voilà.
Sur Internet aussi, d'ailleurs, maintenant, dans les forums, etc.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, je fais une petite digression. Je suis allée évidemment fouiller Isabelle Niclès sur Internet. Dans un forum, il y a une personne qui cherchait justement une hypnothérapeute pour des problèmes d'obésité. Enfin, elle devait se faire opérer, voilà, elle devait subir une chirurgie esthétique, elle devait perdre du poids et elle cherchait une hypnothérapeute sur Montpellier. Et une personne, là, vous parlez de vous en bien, plutôt très très bien, en disant que vous l'aviez beaucoup aidée sur ce même problème.
Vous me rassurez.
Voilà, donc on sait tout, hein. on sait tout maintenant sur Internet. Alors justement, profitons-en. Donc vous agissez sur les problèmes de poids, docteur Niclès ?
Alors oui, moi personnellement, effectivement, j'utilise l'hypnose en thérapie. Donc tous les problèmes, on va dire, psychophysiologiques, ça va de la phobie à la dépression, en passant par l'anxiété, les troubles anxieux, les addictions, bien entendu. En fait, on va pouvoir utiliser l'hypnose dans tout ce qui est médecine dite fonctionnelle, hein, c'est-à-dire où le rôle de la médecine psychosomatique ou somatopsychique, hein, on le met dans un sens, mais c'est un non-sens que de le laisser dans un seul sens, c'est-à-dire où effectivement nos émotions, hein, nos croyances, nos émotions, nos blessures, hein, sur nous-mêmes vont s'exprimer en langage qu'on dit non-verbal. Et le langage non-verbal, dans ce cas-là, c'est le langage des maladies, c'est le langage des symptômes. Et tout le travail thérapeutique consiste effectivement à faire de la remédiation, c'est-à-dire à retravailler un petit peu effectivement cette croyance et ces émotions pour amener les gens d'un point A à un point B, c'est-à-dire effectivement du problème dans lequel ils sont au temps présent, et les amener dans un futur libéré, pour qu'ils puissent construire autre chose qu'un automatisme mental, émotionnel et comportemental qui est basé effectivement sur une émotion qui est délétère et qui hypnotise, hein, qui est un symptôme qui hypnotise littéralement. Hein, vous prenez quelqu'un qui a la phobie, qui est phobique de quelque chose, rien d'autre n'existe. On se croirait presque au music hall avec l'hypnotiseur à l'ancienne du music hall. C'est-à-dire, quelle que soit la raison, les personnes savent exactement que c'est inadapté. Mais la magnétisation de l'émotion est telle que l'esprit critique des gens ne peut pas avoir de prise sur le centre émotionnel. Et effectivement, ce sont les émotions qui guident le comportement des gens. Donc avec l'hypnose, effectivement, nous allons créer un état de conscience modifié qui va permettre une exposition différée à ces émotions, un travail à distance sur les émotions et finalement de refabriquer une nouvelle identité, d'aider les gens à changer d'identité et à se projeter dans le futur avec un comportement différent.
Nous faisons une petite pause musicale sur le réseau FM+.
Oh, manaka okantiri. Papa mia ke thela le harusi kwa era tsana nyuana shanaka ayana kukihia kuro kon thela ntiana ngina orna shanawe kian lelela ana alopana ngina ko mikun shukuru nluku kire paporo pio katiwe ano ora usomani Kurana usomani, anamu kumar mapele ongiwa nela lobwana. Ala tapani, tapiri sori aka kia ala tuala tani ala. Atoro toru aka, Esumani kino ongiwa nele rukulu. Wayele tosheni, weya nohana nata. Mwana gao, we mwana, mi mwana, kin roma le latai oh manaka ogoni hotunku
sur le réseau SFM+. Vous êtes dans votre émission Itinéraire Santé, consacrée pour ce mois d'avril à l'hypnose. Et c'est le docteur Isabelle Niclès qui est avec nous. Alors, docteur, de nombreuses techniques de psychothérapie moderne découlent de l'hypnose, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, historiquement, si on remonte effectivement à Charcot, hein, qui a été un neurologue, qui a utilisé l'hypnose, enfin, qui faisait utiliser l'hypnose par des assistants, mais c'était en fait pour étudier l'hystérie. Il se servait des séances d'hypnose pour déclencher les crises d'hystérie, puisqu'avec l'état d'hypnose, nous pouvons modifier la perception de la réalité. De là, effectivement, Freud est venu se former à l'école de Charcot et a développé effectivement l'hypnose. Et puis, le côté transférentiel était trop fort avec l'état d'hypnose, puisqu'effectivement, on crée une nouvelle réalité. Et pas une imagination, mais une nouvelle réalité. C'est comme si c'était vrai. Donc, je crois qu'il s'est fait un peu peur. Et de là, effectivement...
Freud se fait peur.
Oui, et je crois effectivement de là il a créé la psychanalyse en fait, qui est effectivement une façon de rentrer dans un état d'une absorption mentale, une introspection par des différents moyens d'associations libres ou autres, effectivement après de chercher d'aboutir à une tâche thérapeutique. Voilà. Et puis il y a actuellement, et ça c'est important, et c'est bien que vous me donniez le micro pour parler sur ça, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est qu'on confond l'hypnose et la tâche thérapeutique que l'on demande. Donc il y a un état de conscience modifié, mais je peux faire l'hypnose pour rien faire. Et ça s'appelle de l'hypnose pour rien faire. Alors on peut parler par là, bah, faire la sieste. Hein, la sieste montpelliéraine, j'ai appelé ça l'hypnosieste. Hein. C'est, j'apprends ça aux étudiants et ça marche très très bien. Et donc, on rentre en état d'hypnose. Donc, il y a plusieurs techniques, effectivement, qu'on a vues la dernière fois d'induction qui nous mettent dans cet état, on va dire, d'absorption mentale. Hein. Vraiment, le mot, c'est l'absorption mentale et pas le lâcher prise. Hein. L'absorption mentale. Et effectivement, dans cette absorption mentale, je vais faire des tâches thérapeutiques. Donc, si je veux faire en sorte que les gens apprennent à se relaxer, eh bien, ça s'appelle de la relaxation. Si je veux apprendre aux gens à méditer, quels que soient les différents, il y a beaucoup de formes de méditation, mindfulness ou toute autre chose, eh bien, effectivement, ça s'appelle de la méditation. Si je fais de l'hypnose pour aller faire de la remédiation cognitive et comportementale, eh bien, effectivement, ça s'appelle de la thérapie à médiation cognitive et comportementale. Donc, il ne faut pas confondre l'état et la tâche thérapeutique que l'on va développer dans cet état particulier qui nous donne accès à des ressources que l'on n'a pas en état de conscience ordinaire.
Je vous propose une nouvelle petite respiration musicale pour réfléchir à tout ça sur le réseau FM+. Toujours sur le réseau FM+, et toujours dans notre émission Itinéraire Santé, en compagnie du docteur Isabelle Niclès, qui nous dévoile tout sur la psychothérapie, une émission passionnante. Donc je vous rappelle que la première partie qui a été diffusée le 3 avril est écoutable en podcast sur notre site fmplus.org. Voilà. Alors Isabelle, comment se déroule une séance d'hypnose ? Vous l'avez déjà plus ou moins abordé, mais par exemple, si on prend un cas concret, il faut que je vous dise tout, il faut que j'arrête de fumer. Je ne sais pas comment m'y prendre. On m'a parlé de l'hypnose.
Tout à fait, c'est une grande demande de la part des gens d'arrêter de fumer. C'est un grand problème de santé publique, hein. Le tabac, ça fait quand même des dégâts. Donc en fait, si on prend cet exemple-là, effectivement, on est fumeur. Donc déjà, les patients s'imaginent « je suis fumeur ». Surtout pour les addictions, on s'approprie ça au verbe « être », hein, comme une carte d'identité, comme un signe distinctif de notre identité. Donc effectivement, alors il y a plusieurs types d'approches d'hypnose. Il y a les approches d'hypnose qui vont utiliser des séances simplement pour faire ce qu'on appelle des suggestions, puisque l'outil thérapeutique quand même de l'hypnose, c'est la suggestion. D'où l'éthique. car si ma suggestion n'est pas éthique, je peux effectivement influencer énormément les gens, puisque la suggestion marche, hein, la suggestion marche en état d'hypnose, en transe formelle, etc. Mais par contre, en état d'hypnose, un cerveau est beaucoup plus suggestionnable, d'où effectivement l'éthique du professionnel qui va l'utiliser. Donc, pour arrêter de fumer, il y a effectivement des fois des thérapeutes qui vont utiliser des séances d'hypnose de suggestions aversives, de suggestions qui sont basées effectivement sur les dégâts que peuvent faire le tabac et les aspects positifs que ça peut être de libérer ses poumons. Et puis il y a aussi un autre travail qui, moi en tout cas, je fais, qui est l'hypnose mais façon thérapie brève, c'est-à-dire l'hypnose thérapie orientée solution, où là l'idée n'est pas tant de faire des suggestions thérapeutiques mais d'aider les gens à se libérer de leur sentiment d'identité de je suis fumeur et que dans le futur je ne peux pas me projeter autrement que fumeur si je n'ai pas fait un travail où je sais et que j'ai appris à me libérer de mes émotions pour lesquelles j'appelle le tabac. Le tabac est un mauvais médicament, mais c'est un médicament qui soigne et qui compense quelque chose. Donc si vous n'aidez pas les gens à se libérer de cette identité, eh ben effectivement c'est très, on a des échecs à distance. Donc tout le travail thérapeutique va être effectivement de les aider à se libérer de cette identité. Voilà. Alors en nombre de séances, on va dire ça peut aller de une séance à en moyenne, je vais vous dire 5 séances, mais c'est toujours très pas sympathique de vulgariser un petit peu le nombre de séances, parce que les gens ils prennent le nombre de séances que chacun a besoin en fonction de sa problématique.
Mais est-ce qu'il y a des personnes que vous allez sentir complètement fermées à ce...
Alors, à partir du moment où les gens viennent nous voir, il y a déjà un biais. Les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ne sont pas complètement fermés. Même s'ils ont peur, alors ils seront sur la défensive, ils seront peur parce qu'il y a des croyances autour de l'hypnose, etc. Mais à partir du moment où vous allez voir quelqu'un, c'est une part de vous qui a envie. Sinon, tout simplement, vous n'y alliez pas.
Oui, donc il n'y a pas vraiment de blocage.
Non. Pas dans l'hypnose, effectivement, thérapeutique.
Pardon. Alors, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Dans le cadre de votre travail à Val d'Aurel, vous travaillez avec l'hypnose et initiez aussi à l'auto-hypnose. Vous voulez bien nous...
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient beaucoup à cœur. L'idée de l'hypnose, c'est effectivement d'aider les gens en tant que médecin ou thérapeute, c'est d'aider les gens momentanément, mais c'est aussi et surtout de leur permettre d'avoir un outil qui va les autonomiser, un petit peu comme une pharmacie biologique dans laquelle on va l'épuiser à la demande, puisque là, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication. Et puis, c'est zéro coût pour la sécurité sociale. Donc en fait, sur Val d'Aurel, j'utilise l'hypnose en tant que médecin esthétique. J'utilise l'hypnose pour reconstruire, par exemple, quand je fais des petits gestes qui sont douloureux ou anxiogènes, qui entraînent de la douleur ou de l'anxiété, je vais effectivement utiliser l'hypnose, soit tout simplement pour aider mes anesthésies locales, puisque ce sont des gestes qu'on fait sous anesthésie locale, soit pour pouvoir simplement enlever l'anesthésie locale quand il y a certaines contre-indications à l'anesthésie locale et augmenter effectivement un état de relaxation, un état de confiance, un état de bien-être tout simplement. Et puis il y a une activité toute particulière qui est effectivement dans le cas du cancer du sein où à ce stade de la reconstruction on est bien loin de la maladie. J'ai des patientes qui n'ont pas encore rapproprié le sein, c'est-à-dire qu'on voit la peau n'est pas touchée, n'est pas réhabitée, un petit peu comme un appartement où on a fermé la porte, il n'y a pas la lumière, c'est froid dedans, tout le monde passe devant mais personne n'y rentre. Et effectivement là très rapidement, une fois, je leur apprends une petite technique d'auto-hypnose où il y a l'art de la rhétorique, de la communication hypnotique dont on parlait la première émission, et pour les aider dans un certain toucher hypnotique à se réapproprier et à réinvestir cet espace non habité pour effectivement retourner sur leur sensualité, sur leur aspect multidimensionnel de la femme.
Docteur Nicolas, l'émission se termine. Un grand, grand, grand merci. C'était vraiment passionnant. Donc, j'invite les auditeurs à écouter notre première émission, donc l'émission du 3 avril, sur notre site fmplus.org, donc en podcast Itinéraire Santé. Je vous donne rendez-vous pour le mois de mai. Pareil, premier, troisième, mercredi à 9h sur notre réseau FM+. Voilà, Isabelle Nicolas, je vais donner vos coordonnées. Votre cabinet est 10 boulevard Victor Hugo. Un téléphone 09 62 14 05 12. Non, c'est pas ça.
Je sais pas. C'est pas grave, les gens trouvent.
C'est dans les pages jaunes. Voilà, vous êtes dans les pages jaunes, docteur. Voilà, et un site internet pour plus d'infos, hypnose-medical-montpellier.fr.
Tout à fait.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à Manu qui est à la technique et merci à vous, chers auditeurs, d'être fidèles à cette émission.